Parmi toutes les races qui peuplent l'Entre-Terre, certaines vont plus susciter l'attention que d'autres. L'attrait du mystère, sans doute, d'un passé nébuleux, d'une puissance dévastatrice insoupçonnée, mais surtout le sentiment que ce peuple est intrinsèquement lié au fondement même de notre histoire. Je ne compte plus toutes les fois où l'on m'a demandé en commentaire de consacrer une vidéo à la caste des Sanctechers, que dis-je, plus qu'une caste, une véritable race, puisque comme nous le dit la robe de noble Sanctechers, ces êtres ont depuis longtemps assimilé une physiologie non humaine. Ces quelques minutes consacrées à cet ordre clérical seront l'occasion d'aborder, comme toujours, d'autres sujets qui lui sont reliés. La mort destinée, bien sûr, la reine crépusculaire sans aucun doute, et quelques nouvelles théories, évidemment, histoire d'en faire rager certains en commentaire. Hello à tous, c'est Ludic, et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode du lore d'Elden Ring. Vous le savez déjà si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je suis partisan de l'idée selon laquelle une divinité unique, liée au creuset primordial, se serait fragmentée pour donner naissance aux différentes flammes et divinités extérieures telles que nous les connaissons aujourd'hui. Mais on peut considérer, comme le fait le très bon guide d'Elden Ring, que ces divinités extérieures viennent toutes du cosmos, pour chercher à influer sur la destinée de l'Entre-Terre. Lors de ma dernière vidéo, nous nous sommes concentrés sur l'une de ces divinités, le dieu Cyclope, et sur sa flamme de la ruine. Mais aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur une toute autre entité, la mort destinée et sa flamme noire. Bien que, vous le verrez, ces deux flammes semblent avoir plus en commun que ce que l'on pourrait penser à la base. J'ai en effet remarqué, récemment, que chaque flamme semble être liée à une autre, comme si elles allaient par pair. Ainsi, la flamme noire paraît comme l'antithèse de la flamme de la ruine, la flamme exaltée agit comme l'opposé de la flamme sacrée, et la putréfaction écarlate semble être une version plus énervée du feu sanguin de la mer informe, comme si à chaque pouvoir était associé un contre-pouvoir. Cela remet en doute ma conviction, selon laquelle l'unique serait à la base de tout. Peut-être bien que l'unique dont nous parle Iyeta ne concerne en définitive que la volonté suprême et la flamme exaltée, et n'a rien à voir avec les autres divinités extérieures. Parmi toutes ces flammes, l'une d'elles semble attirer toutes les peurs comme les convoitises. Il s'agit bien sûr de la flamme noire, seule entité capable de terrasser des divinités. Manifestation physique de la mort destinée, une déité qui ne se fait pas prier quand il s'agit d'infecter toutes les strates de l'Entre-Terre. Comme toutes les autres divinités extérieures, la mort destinée exerce son influence via des avatars, ou comme ils sont appelés dans le jeu, des émissaires. C'est le cas de la reine crépusculaire, des Sanctechers, mais également de Mélina à la fin du jeu, qui devient son incarnation face à la flamme exaltée. La flamme noire peut aussi prendre d'autres formes et présenter des variantes. La flamme vindicative, aussi appelée flamme spectrale, utilisée par les rapaces funestes, est un mélange de flamme noire et d'une flamme glaciaire. Les rapaces funestes sont donc liés d'une façon ou d'une autre à la mort destinée. L'objet lance de rites funéraires nous explique qu'ils exécutaient des rituels liés à la mort, promettant une lointaine résurrection. C'est une idée que l'on retrouve aussi dans le talisman l'âme cornue aux plumes bleues, un objet utilisé naguère dans d'antiques rituels funéraires, mais également sur la fleur d'Altus qui servait jadis lors des rituels funéraires avant que l'arbre-monde n'apparaisse. Ces rapaces funestes sont les enfants d'une entité portant le nom d'oiseau bicéphale, un oiseau à deux têtes présenté comme l'émissaire d'une divinité extérieure sans qu'il soit pour autant précisé laquelle. Mais cette idée d'un oiseau à deux têtes symbolise assurément la dualité de cette flamme, à la fois flamme noire et flamme glaciaire. Il convient alors de se demander si on ne devrait pas faire une distinction entre la mort incarnée par Godwin, les non-morts et les rapaces funestes, et la mort destinée, incarnée par les Sanctes Chairs ou Maliket. De mon point de vue, la mort destinée peut être vue comme la mort qui touche tout un chacun à la fin de sa vie, la faucheuse en quelque sorte, tandis que la mort représenterait un état plus brut, la mort qui peut toucher un être humain à n'importe quel moment. Quant à savoir si ces deux états, la mort et la mort destinée, sont couverts par une seule et même divinité extérieure, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais ce n'est pas la seule variante de la mort destinée que l'on peut trouver en Entre-Terres, puisque celle utilisée par Maliket diffère également de l'original. On y voit des teintes rougeâtres lorsqu'on la libère, que l'on retrouve également sur le sort Lame d'Ébène. D'ailleurs, le pieu que l'on retrouve enfoncé dans le ventre de Marika présente des teintes noires et rouges similaires, supposant que Maliket aurait pu lui infliger ce châtiment, peut-être à sa demande. On peut légitimement se demander si cette forme n'est pas en réalité la véritable forme de la mort destinée, ce qui ferait de la flamme noire utilisée par les Sanctes Chairs une version affaiblie de cette dernière. On peut aussi remarquer sur cette image que le visuel de la rune n'est pas sans rappeler l'apparence de la Marika crucifiée à la fin du jeu. Pour asseoir et exprimer son pouvoir, la mort destinée avait besoin, comme toutes les autres divinités, d'un émissaire, et le premier d'entre eux fut la reine aux yeux crépusculaires. Sur le sort rituel des flammes noires, on peut lire que cette dernière guidait les apôtres, et on raconte qu'elle aurait été une empyréenne choisie par les doigts. Intéressant d'ailleurs de voir qu'il est fait mention des doigts, sans spécifier s'il s'agit des deux doigts ou des trois doigts, comme si ces deux entités n'existaient pas encore et que l'unique était encore complet. De nombreuses théories ont circulé autour de cette reine aux yeux crépusculaires. Est-elle un protagoniste unique, un simple avatar d'une divinité, comme il peut y en avoir de nombreux au fil de l'histoire? Est-ce Mélina ou un autre personnage? Nous allons laisser ces théories de côté pour le moment. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les fameux Sanctes Chairs, ces créatures mystérieuses recrutées par la reine crépusculaire, capables de manier la flamme noire déicide au point d'en créer de nombreux sorts, comme la boule de flamme noire, le rituel de flamme noire ou encore la flamme noire protectrice. Sur cette dernière, on lit que les apôtres furent étreints par la reine, faisant de la flamme noire leur bouclier. On parle ici d'un ordre clérical, puisqu'on va y retrouver des apôtres, des nobles ou des moines. De par leur nom, on comprend qu'il s'agit d'êtres sanctifiant la chair, peut-être un peu trop d'ailleurs, puisque leur tenue est composée de lambeaux de peau lisse cousus ensemble. On y apprend que les nobles sont en réalité d'anciens apôtres qui auraient assimilé une physiologie non humaine et qu'en ce sens, ils ne sont pas si différents du creuset, forme primordiale de l'arbre-monde. On y lit également que ces robes sont célèbres pour leur tabard orné de sept visages. J'y vois là un beau clin d'œil et une belle référence à la religion des sept de Game of Thrones, le fameux septon, l'idée selon laquelle un unique dieu multiface serait représenté par sept visages divins, mythologie qui tire déjà son inspiration des sept péchés capitaux évidemment. Mais quelle est la véritable origine des Sanctes Chairs ? Ont-ils toujours vénéré la flamme noire et la reine crépusculaire? Si on s'intéresse à l'objet l'ange Sancte Chair, on pourrait penser que oui, puisque la reine y berce les apôtres nouveau-nés, les préparant à devenir des pourfendeurs de Dieu. Cependant, je pense que les Sanctes Chairs auraient pu par le passé vénérer une autre divinité, du nom de divinité Ophique. Il s'agit potentiellement du dieu serpent Aiglé auquel s'est offert Rykard. Est-il l'avatar de la divinité elle-même ou le successeur de l'antique divinité Ophique mentionnée sur l'épée courbée du dieu serpent? On y lit en tout cas qu'il s'agit d'une religion oubliée que l'on pratiquait autrefois sur le mont Gelmir. Cela expliquerait selon moi la queue serpentine des nobles Sanctes Chairs, mais surtout cela donnerait du sens aux nobles que l'on affronte justement dans le temple d'Aiglé et qui semble protéger l'amnios de serpent, un objet qui ressemble beaucoup à la lange Sancte Chair. Ainsi, à l'image de Tanis, qui veillait sur les embryons de serpent, est-ce que la reine crépusculaire endossait le même rôle pour la création des apôtres Sancte Chair ? Si la vidéo te plaît et que tu ne veux pas que je te dépaisse pour donner ta peau au sancte cher et à la flamme noire, pense à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Bon visionnage. Un peu plus tôt, je vous indiquais que dans cet ordre clérical, on retrouvait également des moines. Mais j'aurais dû être un peu plus précis, car il s'agit d'un moine en particulier, le fameux Amon de la Flamme Noire dont je vous parlais déjà dans ma précédente vidéo. Ce personnage, dont on peut récupérer les cendres d'invocation, est à la base un moine gardien de la Flamme de la Ruine, mais par couardise, il s'est laissé corrompre par la Flamme Noire des Sanctes Chairs, devenant par là même un moine de la Flamme Noire. C'est un élément qui laisse à supposer un lien assez fort entre la Flamme Noire et la Flamme de la Ruine, mais ce n'est pas le seul. Si on regarde de plus près les incantations liées à ces deux flammes, on remarque de suite des similitudes assez frappantes dans leur visuel. On retrouve également cette idée avec l'arme Clocher d'Elfen, qui possède justement une compétence unique du nom de Flamme de la Ruine spectrale. On fait donc ici directement un lien entre la Flamme de la Ruine et les flammes spectrales que j'évoquais un peu plus tôt. Cependant, on ne peut pas dire que ce lien soit une franche découverte, puisque la lame du devoir, l'arme de Mélina, nous mettait déjà sur la voie. Qui marche parmi les flammes croisera un jour le chemin de la mort destinée. On parle bien sûr de la flamme de la ruine, et on a l'impression d'entendre une prophétie inéluctable. Celui qui s'imprègne de la flamme finira un jour par se faire corrompre par la flamme noire. C'est d'ailleurs une phrase que nous répétera Mélina de vive voix lorsqu'elle sera amenée à brûler l'arbre monde. C'est intéressant car cela signifie qu'elle est parfaitement consciente de ce qui l'attend, à savoir qu'un jour, elle renaîtra sous les traits de l'avatar de la mort destinée.
Thank you for guiding me here. The one who walks alongside Flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye.
Alors oui, le premier objectif de Mélina, celui qui lui a été confié par sa mère Marika, était de brûler l'arbre monde. Mais dorénavant, elle a ses propres ambitions, ses propres desseins pour l'entreterre, et cela suppose de devenir la nouvelle reine aux yeux crépusculaires. Elle nous l'explique d'ailleurs très bien dans le cadre de la fin Flamme Exaltée. Mon rôle a été défini par ma mère, mais aujourd'hui, c'est ma propre volonté qui motive mes actes. J'ai un désir bien précis pour l'avenir de ce monde, peu importe les intentions de ma mère, et je ne tolérerai pas que quiconque en dise du mal, pas même vous. Quant à savoir ce que symbolise cette marque sur son œil gauche, certainement la flamme exaltée. Mélina est une assurance vie, une sécurité au cas où un sans-éclat se laisserait tenter par cette dernière. Elle aurait sûrement fini par se réveiller à un moment, mais disons que vos actions en tant que seigneur de la flamme accélèrent le processus. Revenons maintenant sur nos sanctes chairs, et j'ai envie qu'on s'intéresse à leur positionnement dans le monde d'Elden Ring. Il existe 6 itérations des sanctes chairs dans le jeu, 2 nobles, 2 apôtres et 2 duos. Un noble se trouve dans le temple d'Aiglé, on en a déjà parlé. Un autre noble semble garder la tour divine de Lyurnia où repose le corps d'origine de Rani. Un apôtre garde l'espadon du déicide, qui est l'arme de la reine crépusculaire, et un autre se trouve au village de Dominula, sur le plateau Altus. Pour ce qui est des deux duos, l'un se trouve dans la grotte du Mans d'Esprit, et l'autre semble bloquer l'accès à Maliket, la lame d'ébène. Rien n'est jamais fait par hasard par From Software, et je ne peux pas croire que leurs emplacements soient aléatoires. Pourquoi un noble garde-t-il le corps de Rani ? Pourquoi le duo sanctechère de Faroum nous empêche-t-il d'accéder à Maliket ? Après tout, c'est lui qui contient la mort destinée, la source de leur pouvoir, et il devrait chercher, comme nous, à la libérer. Eh bien, toutes ces questions, a priori sans réponse, vont peut-être trouver une explication dans notre prochain chapitre. Une une théorie assez populaire commence à fleurir dans la communauté du lore d'Elden Ring. Et si la reine aux yeux crépusculaires n'était autre que Marika ? Je dois avouer qu'à la base, cela ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Mais quand on s'y intéresse de plus près, et c'est ce que j'ai tenté de faire pour les besoins de cette vidéo, eh bien je dois dire que beaucoup de choses se mettent en place et commencent à faire sens. Commençons par rappeler ce que nous savons sur cette reine aux yeux crépusculaires. Nous savons qu'elle était l'avatar de la mort destinée. Elle est présentée comme une reine ayant été empyréenne des doigts. Si on est pragmatique, quel est le seul autre personnage d'Elden Ring à être présenté comme une reine et une empyréenne ? Dans le mille, Marika. Je le concède, c'est assez simpliste et ça pose un problème majeur. Le cas de Maliket, qui est supposé avoir terrassé la reine crépusculaire. Cela voudrait donc dire que Marika a été vaincue par Maliket, puis l'aurait ensuite trahi pour enfermer la rune de mort en lui. Est-ce vraiment inconcevable ? Imaginez la chose, Marika est l'avatar de la mort destinée, mais elle souhaite se débarrasser de cette affliction. Elle demande donc à Maliket, son plus proche familier, de la vaincre, puis elle le trahit en enfermant le pouvoir de la mort destinée en lui. Est-ce si différent d'une Rani qui tranche sa propre chair d'empyréenne ou d'un Mikaela qui tente d'extraire la putréfaction de Malenia avec son aiguille d'or ? Revenons alors sur l'œil de Gurank, que ce dernier nous confie. Tout le monde est parti du principe qu'il s'agissait de son œil, mais ne pourrait-il pas s'agir d'un œil que Maliket aurait arraché à la reine lors de son combat contre elle ? L'œil gauche de Marika, dont je soupçonne depuis longtemps l'absence chez l'empyréenne. Réfléchissez à la position des Sanctechères. Pourquoi un duo nous empêche-t-il d'accéder à Maliket, si ce n'est parce qu'ils servent Marika et qu'ils ne souhaitent pas que la rune de mort enfermée par leur ancienne maîtresse soit libérée ? Bien sûr, on peut penser qu'ils soient là simplement pour surveiller Maliket et qu'ils n'osent pas s'attaquer à lui car trop puissant. Mais si Marika a bien été la reine aux yeux crépusculaires et qu'elle a finalement décidé de rejeter la mort destinée, ne serait-ce pas logique que des années plus tard, cette même mort se réincarne dans deux de ses enfants, à savoir Godwin et Melina. Il reste une chose qui m'ait mis la puce à l'oreille sur cette théorie, c'est l'apparence de l'espadon du déicide et de la lame relique sacrée. L'espadon est tout simplement l'arme de la reine crépusculaire, tandis que la lame est l'arme que vous pouvez forger avec le souvenir de la bête d'Elden. Ces deux armes sont assez similaires, que ce soit en termes d'apparence ou de pattern. La seule différence, l'une tire des flammes noires et l'autre des flammes sacrées. Et si ces deux armes symbolisaient tout simplement la même personne, à savoir Marika, mais à deux périodes différentes de sa vie d'empyréenne. Où se cache la vérité au milieu de toutes ces théories ? Miyazaki et George Martin n'ont-ils pas volontairement laissé ces zones dans le flou pour justement susciter notre questionnement et titiller notre imaginaire ? D'après les dernières rumeurs, un DLC serait dans les tuyaux, et pas un petit DLC, mais quelque chose d'assez énorme. Peut-être aurons-nous alors toutes nos réponses. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en nous rejoignant sur Twitch ou via la cagnotte Utip. La prochaine vidéo lore se concentrera sur Radahn, le fléau des astres. D'ici là, prenez soin de vous, à très vite, ciao.